Introduction. Parce qu'une sursimplification ne vaut pas mieux qu'un mensonge. Stanislas Lem, His Master's Voice. Aujourd'hui, tout ou presque semble devoir trouver son explication dans le cerveau. Nos bonheurs, nos émotions, nos addictions, nos peurs, nos croyances, nos performances, notre capacité ou incapacité à changer ne serait qu'un effet des interactions de nos neurones. On peut évidemment se réjouir que les neurosciences et les sciences cognitives, des disciplines encore jeunes, aient gagné en si peu de temps l'intérêt du grand public. Elles ont, de fait, réalisé des avancées spectaculaires ces dernières années, notamment dans le traitement des maladies neurodégénératives. Et nous n'en sommes qu'au début. Mais en tant que neuroscientifique, et comme beaucoup de mes confrères et consoeurs, je m'inquiète de cette prolifération de discours sur le cerveau, de cette neuromania, car elle se fait au prix de raccourcis, d'approximations, voire de contre-vérités. Faut-il y voir l'exigence de scientifiques soucieux de ne pas retrouver dans les discours tenus au grand public toutes les nuances et réserves qui figuraient dans leurs articles de recherche? Pas seulement. Car en matière de neurosciences et de sciences cognitives, les croyances sont performatives. Autrement dit, elles ont des effets dans le monde réel. Si, après avoir effectué un test, ou lu un article de vulgarisation, vous vous considérez plutôt cerveau droit que cerveau gauche, un découpage rejeté par la plupart des chercheurs actuels, vous n'aurez pas simplement une vision caricaturale de votre cerveau, cette vision influencera vos choix d'études et de carrière. Elle aura un impact sur votre vie. Pour gagner en lucidité, en liberté, il est donc urgent de savoir ce que les neuroscientifiques et les sciences cognitives disent vraiment, et pas seulement ce qu'on leur fait dire. C'est le projet de cet ouvrage, qui redonne la parole aux scientifiques et rend accessibles leurs travaux avec leurs limites et précautions, pour ne plus être condamnés aux discours caricaturaux, instrumentalisants, pour des raisons idéologiques ou mercantiles, les recherches sur le cerveau. Cela est d'autant plus important que cette neuromania installe l'idée que, de l'intime au politique, tout s'éclaire par le cerveau. Or, celui-ci n'est pas le bon niveau explicatif pour beaucoup de nos comportements individuels et collectifs. Tout réduire à nos neurones revient, dans certains cas, à vouloir expliquer le fonctionnement d'une voiture en étudiant au microscope les atomes de carbone qui la composent. Le réductionnisme est l'un des moteurs de la science. Il a certes permis des avancées fantastiques en neurosciences, mais il provoque une myopie sur des sujets comme les addictions, les douleurs, les maladies psychosomatiques, les fake news. Pour bien comprendre les phénomènes humains et sociaux, il est parfois nécessaire d'élargir la focale. Penser le cerveau non pas dans un bocal, mais en lien avec le corps, avec son contexte, et ne pas réduire tous les problèmes à l'individu et à son cerveau. Les chercheurs et les scientifiques sont les premiers à le dire. Il est donc important de les écouter pour démêler le vrai du faux dans cette profusion de discours sur le cerveau. Première partie. Aux origines du réductionnisme, une brève histoire du cerveau. Le cerveau est la seule chose à s'être nommée elle-même. Subreddit Shower Thoughts. La méthode cartésienne. Notre cerveau est l'organe le plus mystérieux de notre corps. Si vous opérez une dissection d'un corps humain, vous pourrez à grands traits déduire les fonctions de l'essentiel de ses constituants. Vous trouverez des restes d'aliments dans l'estomac, et le système digestif, vous constaterez la fonction structurelle et mécanique des os et des ligaments. Vous pourrez inférer de vos observations le principe du système circulatoire et le rôle de pompe à sang du cœur. C'est d'ailleurs, historiquement, la manière dont nos connaissances anatomiques se sont constituées. Le cerveau, cependant, se livre plus difficilement. Impossible par un simple examen de comprendre les principes qui le régissent. Un cerveau mort ne nous apprend pas grand-chose. Son opacité a longtemps constitué un obstacle à notre compréhension des bases biologiques de notre psyché. Nous savions que le cerveau était le siège de l'esprit, mais jusqu'au siècle des Lumières, la majorité de nos connaissances se résumait à des schémas anatomiques purement descriptifs, à l'image de ceux d'Ibn al-Haytham, datant du Xe siècle. Les premières tentatives systématiques de percer les mystères du cerveau de manière méthodique apparaissent au XVIIe siècle avec la parution de 3 ouvrages. L'Homme de René Descartes, publication posthume en 1662, Cerebri Anatom de Thomas Willis, publié en 1664, et Discours sur l'anatomie du cerveau de Nicolas Thénon, publié en 1669. On y trouve les bases des débats philosophiques et scientifiques qui vont fonder pour 4 siècles nos connaissances du sujet, que ce soit sur la nature de l'esprit ou le fonctionnement du cerveau. Nous avons ainsi hérité d'un certain nombre d'hypothèses fausses auxquelles nous prêtons encore foi aujourd'hui. Par exemple, Descartes, pour étayer son système dualiste, fait de la glande pinéale l'interface entre le corps et l'âme. Willis défend l'idée que chaque aire du cerveau est responsable d'une fonction spécifique, une théorie très ancienne et essentiellement intuitive, qui se base sur le constat que certains traumas de la boîte crânienne peuvent faire perdre certaines fonctions du corps. Thénon, quant à lui, propose d'une part, contre Willis, d'abandonner les spéculations sur d'éventuelles fonctions mentales localisées, théorie trop spéculative et non étayée par des preuves empiriques, et d'autre part, il préconise d'appliquer au cerveau les méthodes employées pour le reste des organes. Le démanteler de la manière la plus délicate possible pour ne pas l'abîmer, cartographier les différentes connexions neuronales et suivre une approche multidisciplinaire englobant l'anatomie pathologique et comparative des cerveaux d'autres animaux. En somme, appliquer la méthode cartésienne. Thénon reprochait en effet à Descartes de ne pas avoir mis en application dans son étude du cerveau sa propre méthode. Il n'avait pas suivi son principe de diviser chacune des difficultés que j'examinerai en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. Ainsi, en 1665, au domicile de Melchizedek Thévenot, Thénon mettait en œuvre sa méthode face à un groupe de savants et opérait la dissection d'un cerveau humain. Thénon affirmait que « le cerveau est une machine » et qu'on devait donc l'aborder comme tel, pièce par pièce, en tentant de comprendre la fonction de chaque élément. Il pensait qu'une fois ce travail accompli, les autres mystères, comme les localisations et les aires cérébrales, se trouveraient résolus d'eux-mêmes. Cette approche qui consiste à réduire des phénomènes complexes à leurs composants les plus simples s'appelle le réductionnisme, une sorte de découpage à la plus petite entité pour ensuite tenter de reconstituer et comprendre le tout. Associée à la vision mécaniste de Thénon, elle a constitué la feuille de route des neurosciences depuis et a permis des bonds de compréhension fulgurants, mais conduit aussi aujourd'hui à des impasses. Elle est pourtant encore largement suivie. Elle s'est tant et si bien implantée dans l'imaginaire collectif qu'elle continue d'influencer et d'orienter les travaux des scientifiques. L'approche mécaniste s'est vue, et se voit encore, souvent associée à une vision localiste ou localisée, à l'image de celle proposée par Willis et a donné naissance à des théories telles que la phrénologie. La phrénologie. Comme le dit Mortimer, au célèbre détective Sherlock Holmes dans Le Chien des Baskerville, j'ai rarement vu un crâne aussi dolichocéphalique que le vôtre, ni des bosses supraorbitales aussi développées. Voulez-vous me permettre de promener mon doigt sur votre suture pariétale? Un moulage de votre crâne, monsieur, en attendant la pièce originale, ferait l'ornement d'un musée d'anthropologie. Loin de moi toute pensée macabre, mais je convoite votre crâne. Arthur Conan Doyle reprend ici le lexique de la phrénologie, du grec phrène, cerveau, et logos, connaissance. Une théorie selon laquelle la forme du crâne reflète la personnalité, le caractère et certaines compétences de la personne. Cette discipline rencontrait une audience assez large dans divers milieux au XIXe siècle. La reine Victoria elle-même a fait analyser la boîte crânienne de ses enfants par un praticien phrénologue. Au XIXe siècle, et encore au début du XXe siècle, la phrénologie a tant le vent en poupe qu'on la trouve mentionnée chez des auteurs tels que Mark Twain ou Balzac. Bianchon, le grand médecin de la comédie humaine, décrit le père Goriot de la sorte. Moi qui étudie le système de Gall, je lui trouve les bosses de Judas. Je lui ai pris la tête, il n'y a qu'une bosse, celle de la paternité.